L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM européen et maritime. Vous le savez, chaque premier mardi du mois, l'association Braise Europe Finistère intervient dans l'émission pour nous faire comprendre un peu mieux l'Union européenne et toutes ses implications dans notre vie, y compris chez nous à la pointe. Et oui, aujourd'hui exceptionnellement, c'est en première partie de l'émission que Braise Europe Finistère intervient dans l'invité du jour. Et cet invité, c'est l'eurodéputé Pierre Karleski, qui est aussi finistérien. Et lui, ses dossiers ont trait à la pêche. Nous l'avons interviewé il y a quelques jours avec Jocelyn Chesnel, cofondateur et porte-parole de Braise Europe Finistère. Mais d'abord, Jocelyn, on va faire le point sur cette sortie britannique de l'Union européenne, sortie qui nous a donné l'impression d'être interminable.
Rappelons-le, le 23 juin 2016, au terme d'une campagne politique interne houleuse, le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne avait lieu. Il y a maintenant 4 ans et demi, on apprenait donc la teneur du résultat. Le Royaume-Uni quittera l'Union, comme souhaité par 52% des votants du pays. La période de transition est longue, elle est caractérisée par le retrait progressif des Britanniques des institutions européennes. Pour la nouvelle année, ils sont supposés avoir effectivement quitté l'Union. Au cours de cette période de transition, alors qu'on cherche les fondements d'un accord entre les deux parties, force est de constater qu'il est des sujets à propos desquels on ne s'accorde pas, parmi lesquels, au hasard, la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, question extrêmement importante s'il en est, en tout cas pour les Irlandais, les Britanniques et les Européens. L'appartenance à l'UE, en effet, c'est aussi la fin des frontières. Ainsi, entre l'Irlande et le Royaume-Uni, tous deux membres de l'UE, il n'y a plus de frontières physiques entre les deux États. Or, et nous le savons, l'Irlande du Nord fait partie intégrante du Royaume-Uni, et ce sont aujourd'hui des centaines et des centaines de camions de marchandises, il faut s'en rendre compte, qui passent la frontière tous les jours. Par ailleurs, on a entendu, peu de temps après le Brexit, beaucoup de Nord-Irlandais suggérant ouvertement la possibilité de demander la nationalité de la République d'Irlande. En bref, dans une région qui a énormément souffert de la guerre civile, la question de la frontière, elle est loin d'être obsolète. Aussi, l'UE est-elle très attachée à ses quatre libertés fondamentales, que sont celles de circuler, s'installer, étudier, travailler. Mais encore, et c'est un sujet qui peut nous toucher plus précisément peut-être, celui de l'avenir des citoyens européens au Royaume-Uni et des citoyens britanniques résidant d'un État membre de l'Union européenne. Vous avez peut-être des ressortissants britanniques dans votre entourage. Ce qu'il faut bien comprendre pour l'illustrer, c'est qu'il y a plus d'une centaine de milliers de citoyens français et européens qui vivent au Royaume-Uni, et pareillement des milliers et des milliers de Britanniques qui vivent au sein de l'UE. Vraisemblablement, Britanniques et Européens, pour se rendre d'un côté comme de l'autre, pourront avoir besoin d'un passeport, et c'est même la question du visa qui est peut-être posée. Encore un sujet difficile donc. Ce furent des sujets au hasard, car c'est sans évoquer, même en période actuelle de pandémie, les questions de tourisme, par exemple sur les côtes de la Manche, quasiment forcément vivement impactées, ainsi que certains secteurs d'emploi, à l'instar de ceux au sein de la Brittany Ferries. Aussi, parmi ces désaccords, l'un est essentiel pour la France, la pêche. En effet, nos pêcheurs bretons de surcroît pêchent dans les eaux territoriales du Royaume-Uni, très poissonneuses. Cela influence donc éventuellement très concrètement, durablement, la Bretagne et la France, le Finistère, chacune et chacun sachant combien la région est une région de pêche. Et c'est sans faire mention des sujets de la migration, de la mutation climatique ou d'autres souvent prises à bras-le-corps par l'Union elle-même. Le plus exact est donc d'affirmer combien France et UE, d'une part et dans l'immédiat en tout cas, mais encore le Royaume-Uni d'autre part, désirent un accord de retrait négocié avec exigence, certes, mais surtout entente, au moins cordiale, car cela fait 4 ans et demi que cela dure. Explicitons les choses assez simplement, il existe 3 scénarios vraisemblables. Le Brexit dur, qui suppose l'absence d'un accord global de retrait entre les deux parties, UE et Royaume-Uni, sur des sujets pourtant essentiels, et donc des accords bilatéraux, sans doute, sur tout et sur rien à l'avenir. Le Brexit doux, les Britanniques peuvent partir le cœur léger, si l'on veut, et les Européens les laisser partir le cœur léger, car accord global il y aura eu. Et enfin la solution intermédiaire, un accord qui manque d'ambition et qui ne satisfasse finalement pleinement personne. Enfin, et concernant les derniers programmes et partenariats européens actés vis-à-vis du Royaume-Uni, comme Interreg ou Erasmus+, ceux-ci devraient, selon toute vraisemblance, en tout cas, s'opérer sans encombre inhabituel. Peut-être, cela dit, ne se renouvelleront-ils pas. Vous l'aurez compris, le sujet demeure, à quelques semaines de l'année 2021, assez flou. Parlons alors de l'un de ces éminents sujets. Parlons pêche.
Oui, Jocelyn, il reste donc jusqu'au 31 décembre pour fixer cet accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne avec ce fameux volet pêche sur lequel nous avons donc rencontré l'eurodéputé Pierre Karleskind.
Oui, bonjour Pierre Karleskind, vous êtes député au Parlement européen. Alors, pouvez-vous vous présenter, nous dire d'où vous venez, ce que vous faites et ce que fait plus globalement un député au Parlement européen ?
Vaste question. Alors moi, Pierre Karleskind, je suis député européen dans son premier mandat, donc élu depuis 2019. Professionnellement, je suis océanographe, une profession que j'ai exercée pendant une dizaine d'années, puis j'ai eu une implication politique depuis une autre dizaine d'années où j'ai notamment été élu au conseil municipal de Brest et puis à la région Bretagne où j'ai justement été en charge des questions européennes pendant un moment et des questions maritimes. Alors, le Parlement européen, c'est une grosse machine, une grosse institution. C'est un endroit où les peuples ont envoyé des représentants et qui doivent donc exprimer toute la diversité de cette Europe, dont la devise est d'ailleurs « Unie dans la diversité ». Et ce que je retiens, et notamment la différence avec notre système national, c'est combien cette diversité doit être prise en compte. Ça n'est jamais un clan qui gagne contre un autre au Parlement européen, c'est toujours un compromis qui se crée pour dégager des solutions, des décisions. Voilà en quelques mots pour commencer cela.
D'accord, mais alors, qu'implique la fonction de président de la commission pêche, puisque je crois savoir que vous détenez cette présidence, afin que les gens mesurent peut-être mieux l'enjeu, en fait, de quel pouvoir disposez-vous à cette fonction ?
Alors, finalement, assez peu. Quel pouvoir j'ai ? Le président d'une commission, d'ailleurs en anglais, c'est marrant, c'est pas president, c'est chair. Donc chaise, c'est celui qui est siège au milieu et qui donc organise le travail de cette commission. Mon travail justement, c'est de faire en sorte que cette commission puisse délibérer, débattre, travailler, se réunir sur les sujets qui ont trait en particulier à la pêche et au sujet plus général des produits de la mer, l'aquaculture, enfin, je ne vais pas faire tout le détail. Et le pouvoir que j'ai dans tout ça, c'est un pouvoir d'ordre, de dire à mes collègues, attention, vous égarez quand ils s'énervent un petit peu. C'est programmer les réunions, mettre un agenda qui a un sens politique. Ça, c'est quelque chose qui est important. Les réunions de la commission pêche, je prépare avec beaucoup d'attention l'agenda. Et je prendrai un exemple. Lundi dernier, j'ai mis comme point à l'ordre du jour le Brexit, sans même savoir si nous allions avoir un accord. Eh bien, c'était pour permettre aussi aux députés de cette commission de s'exprimer sur leurs inquiétudes et sur leurs demandes sur cette dernière ligne droite de négociation. Donc voilà, si vous voulez, le pouvoir, entre guillemets, de ce président de commission. Alors, il y en a un qui est peut-être un peu plus à la marge, même si pour certaines commissions, c'est plus gênant, c'est que nous nous réunissons entre présidents de 22, alors maintenant il y a des commissions spéciales, donc 26 commissions au Parlement européen. Nous nous réunissons régulièrement pour traiter la répartition des compétences en notre commission, en particulier quand des dossiers arrivent, dans quelles commissions vont-ils. Ça paraît anecdotique, mais c'est quand même un endroit important pour la coordination de nos travaux et pour faire en sorte que les textes soient examinés de la façon la plus pertinente par le Parlement européen.
Ah oui, et alors la pêche, la Bretagne, le Finistère, in fine, c'est peut-être évident hein, pour certains des auditeurs, mais en quoi le sujet est-il crucial pour les habitantes et pour les habitants du Finistère ?
Alors oui, grande question, et on s'en rend compte quand on voit le Brexit approcher, enfin ça fait 4 ans que le Brexit approche et puis recule, puis ainsi de suite, et on le voit bien par ces moments où dans les ports de pêche finistériens, eh bien, il y a beaucoup d'interrogations. Comment les choses vont-elles se passer ? C'est une place forte de la pêche fraîche française, la cornouaille dans son ensemble, hein, le guilvinec, un guéno lépin-mar, enfin, je ne vais pas tous les citer, sinon je vais en oublier, je vais me faire houspiller par les cornouaillers, mais évidemment le pays bigoudin qui a une longue histoire avec la pêche, avec la transformation des produits très importants. Nous avons des industries, des entreprises de l'agroalimentaire qui travaillent spécifiquement le poisson. Et puis nous avons aussi dans le nord du département des ports, alors un peu plus petits, mais qui tirent quand même leur épingle du jeu de par leur situation. Vous avez Roscoff et vous avez Brest qui est plus centré sur la... Et puis évidemment, c'est une conchyliculture qui est tout le long du littoral, qui fait vivre à l'année ces territoires littoraux, et ça c'est important de le souligner. La pêche, l'aquaculture, ce sont des activités qui, une fois que les touristes sont partis, sont toujours là.
Oui, et alors, est-ce que ce n'est pas un vrai plus d'être finistérien et d'être à la tête de la commission pêche, et en quoi ?
Ce qui est certain, c'est que la connaissance que j'ai pu acquérir du fait que j'ai exercé des responsabilités dans ce domaine, et puis effectivement vivant dans le Finistère, et donc voyant de mes propres yeux et me rendant sur les quais des ports de pêche quand il y a besoin. Je me souviens, le 31 décembre dernier, il y avait un vrai sujet avec une décision du Conseil des ministres de la pêche. Ben, le 31, j'étais avec les armements au guilvinec pour voir comment on pouvait essayer de résoudre le sujet. D'ailleurs, les choses ont avancé par une rencontre avec le commissaire européen. Donc oui, c'est un avantage. Après, je fais aussi très attention quand même de faire en sorte de ne pas avoir qu'un point de vue finistéro-centré. Il y a différents types de pêche en Europe.
Et pouvez-vous expliquer à celles et à ceux qui nous écoutent, hein, puisque vous en parliez, les enjeux pour le Finistère et donc pour ne pas être finistéro-centré pour la Bretagne, liant pêche et Brexit? On parle souvent par exemple d'une histoire de quotas.
Oui, alors les pêcheurs européens, depuis très longtemps d'ailleurs, pêchent dans les eaux de la mer du Nord, de la Manche, du nord de l'Écosse, de l'ouest de l'Écosse, au nord de l'Irlande, dans des eaux qui d'ailleurs ont très longtemps été des eaux internationales, puisque jusque dans les années 70, les eaux territoriales britanniques se limitaient aux 0,6 milles nautiques des côtes. Le reste était dans des eaux sans juridiction nationale. Pardon. Et donc les bateaux y allaient. Et ils ont continué quand le Royaume-Uni est rentré dans la communauté économique européenne, qui est devenue l'Union européenne. Ils ont continué à pêcher. En fait, les clés de répartition entre ce que peuvent pêcher les navires des différents États, ça se négocie, mais pas tous les ans. Et c'est une négociation qui se fait régulièrement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les Britanniques quittant l'Union européenne, ils retrouvent la souveraineté sur leurs eaux, c'est-à-dire sur les 200 000 nautiques des côtes, avec une zone économique exclusive dans laquelle ils ont tout à fait le droit d'interdire les activités de pêche pour des navires qui ne sont pas britanniques. Le truc, c'est qu'à peu près un tiers de notre activité de pêche en Bretagne, un tiers, se fait dans les eaux britanniques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un tiers des bateaux qui est menacé, ça veut dire qu'un tiers de la valeur du chiffre d'affaires, pardon, de la pêche se fait dans les eaux britanniques. Alors il y a des navires qui font en partie côté français, côté britannique, c'est dans la Manche par exemple, et plus d'ailleurs vous allez dans l'est de la Manche, et moins vous avez de trajets à faire pour franchir cette frontière virtuelle qui est au milieu de la mer. Et puis nous avons, donc ça c'est pour les bateaux qui sont plutôt nord de la Bretagne, il y a cet enjeu, ils ne pourront plus aller de l'autre côté de cette frontière. Et puis il y a quand même des navires, je pense à certains navires comme ceux de l'armement de la flotte d'Intermarché, la Scapèche, qui pêchent essentiellement en Ouest-Écosse. Et ceux-là, ils font 100% de leur activité dans les eaux britanniques. Et là, évidemment, la question, c'est pas si on ne trouve pas d'accord sur la pêche avec les Britanniques, eh bien, ils ne pourraient plus accéder à ces eaux. Et donc, on voit bien que pour un port qui, comme l'Orient, fait plus de la moitié de son activité avec du poisson qui est pêché dans les eaux britanniques, c'est un vrai enjeu. Pareil pour d'autres ports, hein, sur le nord de la Bretagne, il y a un vrai enjeu de savoir comment est-ce que, s'il n'y a pas d'accord, mais j'espère qu'il y en aura un, les pêcheurs vont s'en sortir.
On a pu lire ici et là dans la presse que parmi les 27, la France semblait être, en tout cas un temps, la plus intransigeante dans le cadre des négociations, justement vis-à-vis de la pêche avec le Royaume-Uni. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre position Mais également, si vous échangez par exemple avec Monsieur Barnier, qui est le négociateur en chef de l'Union européenne, ou encore avec le président de la République.
Alors, sur le côté la France, et c'est vrai que la France a beaucoup porté le sujet de la pêche. La pêche, c'est un sujet qui ne concerne pas tous les pays européens. Tous les pays européens sont concernés par le fait que les Britanniques quittent le marché commun européen, puisque tous les pays commercent tous les jours avec les Britanniques. Et donc, il y a une inquiétude globale sur ce sujet du commerce. Mais sur la pêche, il y a 8 États qui sont principalement concernés, c'est ceux qui sont autour du Royaume-Uni. Alors, la France a beaucoup poussé parce qu'elle a des intérêts évidents, mais c'est pas la seule, hein. Il y a l'Irlande qui pousse beaucoup aussi, tout en restant ferme. C'est vrai que le président de la République a été clair depuis le début, et puis il a dit, mais c'est vrai qu'au début ça sonnait un peu comme un discours et on savait pas trop quel sens ça avait. Il a dit, nous ne ferons pas de la pêche une variable d'ajustement. Et cela a pris forme dans le mandat de négociation de Michel Barnier, que d'ailleurs nous avons confirmé, donc confié par les États membres à Michel Barnier, que nous avons confirmé dans une résolution que nous avons votée au Parlement au mois de juin dernier. Il n'y aura pas d'accord de commerce, dont les Britanniques ont absolument besoin, s'il n'y a pas d'accord de pêche. Le point sur lequel nous sommes beaucoup plus faibles, parce que les eaux britanniques sont très poissonneuses et que nous avons une partie de notre activité de pêche qui en dépend. Et donc, en faisant ce conditionnement, nous rétablissons une forme de dissymétrie que nous avions dans les négociations. Et c'est comme ça que Michel Barnier prend les choses. Alors oui, j'ai régulièrement Michel Barnier au téléphone pour qu'il me fasse un point sur les négociations, parce qu'il a reçu un mandat des États membres. Il sait ce que nous sommes prêts ou pas à voter, parce que nous avons voté cette résolution. Et donc, il me tient informé. J'ai aussi les membres du gouvernement français au téléphone pour échanger là-dessus, pour être sûr que nous sommes bien alignés, parce que la question dans une négociation, c'est qu'à un moment, il faut que les uns et les autres avancent les uns vers les autres, et donc partent de leur idée initiale et fassent des concessions. Et toute la question, c'est comment on fait des concessions qui n'abîment pas trop notre secteur de la pêche.
Sur la question de la ressource, de la gestion de la ressource, comment est-ce que ça se passait avec notamment les Britanniques avant le Brexit et comment ça pourrait se passer après?
Oh, alors là, c'est bien compliqué. Avant, avant le Brexit, c'est pas compliqué. Il y avait le fameux Conseil des ministres de la pêche de fin d'année où ils s'enferment pendant 2 jours pour se répartir les quotas de pêche. Et où donc ils déterminent entre eux la quantité de poissons qui s'autorise à pêcher. Donc au moins tout le monde était autour de la table, c'était assez simple, bon, ça durait quand même 2 jours. Bon bah là ils sortent, donc ça complexifie un petit peu les choses, et c'est toute la question en fait, et je ne peux pas vous répondre précisément, puisque précisément la gouvernance de l'accord de pêche, puisque c'est au sein de l'accord de pêche que ça se passera, eh bien devra régler notamment la façon dont on va gérer la répartition des quotas et donc les décisions qui seront prises sur le maximum de ce qu'on peut capturer tous les ans.
Et sinon, les zones britanniques concernées, ce n'est pas des zones où la ressource est en tension, où il y a des espèces menacées ou ce genre de problèmes plutôt écologiques?
Alors, non, globalement, sur l'Atlantique, la Manche, la mer du Nord, il y a quand même de singuliers progrès qui ont été faits sur la gestion de la ressource. Et donc, j'allais dire, on laisse un cadeau aux Britanniques qui est plutôt bien géré. L'essentiel, c'est de pouvoir continuer à poursuivre les efforts qui ont été faits pour justement tendre vers une gestion durable, où il y a encore quelques efforts à faire. Mais globalement, voilà, on était plutôt sur une bonne dynamique. Souhaitons qu'on sache la conserver malgré le Brexit.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets plus spécifiques au Finistère qui seraient liés au Brexit?
Alors, plus spécifiques au Finistère, il y a évidemment la question de Brittany Ferries qui va se retrouver un peu coincée entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et au-delà de Brittany Ferries, ce sont les questions portuaires, comme le port de Roscoff, qui va devoir, s'il y a un non-deal, accueillir des contrôles et donc voir se développer potentiellement des embouteillages, enfin des files de camions qui vont attendre avant de faire la traversée. Et puis il y aura toutes ces entreprises bretonnes, qui sont nombreuses, hein, qui exportent vers le Royaume-Uni et qui vont devoir changer leur modalité d'export. Puisque jusqu'à présent, quand vous exportiez au Royaume-Uni, eh bien, c'était comme si vous envoyiez à Rennes ou à Paris. Vous n'aviez pas de douane, et ainsi de suite. Ben, maintenant, il y aura des formulaires de douane à remplir, il y aura des inspections, donc ça va complexifier les choses, et potentiellement même les Britanniques pourront imposer des quotas d'importation, c'est-à-dire des maximums, mais vraiment ça serait le pire des cas, ça, ce que évidemment nous ne souhaitons pas.
Et alors on s'écarte un petit peu du sujet, mais j'en profite, concrètement, où en est-on avec cette procédure du Brexit qui paraît assez interminable ?
Alors, pas de bol, il y a des cas de Covid dans l'équipe de négociation. Donc, ça repousse potentiellement encore l'atterrissage sur ces négociations. Mais on en est où ? Pour dire les choses simplement, il y a probablement quasiment aujourd'hui un texte écrit pour un accord. Mais nous étions encore, il y a relativement peu de temps, c'est-à-dire il y a quelques jours, dans une vraie difficulté sur trois points qui ont été plusieurs fois rappelés par, et c'est toujours les mêmes, par Michel Barnier, la question des conditions d'entrée pour les entreprises sur le marché commun, c'est-à-dire des règles du jeu communes. La deuxième chose, c'est la gouvernance, c'est-à-dire comment on crée un organe de gouvernance qui résout les problèmes quand il y a un conflit. Et le troisième point, c'est la pêche. Troisième point, c'est la pêche, parce que c'est un sujet hautement politique et symbolique pour Boris Johnson, et c'est moins symbolique pour nous, mais c'est très économique, hein, puisque sur nos territoires littoraux, ça a vraiment du poids. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un point dur, mais c'est deux points durs. Le commerce, donc l'accès au marché commun, enfin les règles du jeu commun, et la pêche, c'est toujours bloqué, il y a des choses qui sont rédigées. En fait, le truc, c'est que maintenant, il faut qu'il y ait une sorte de cascade de décisions politiques qui permettent d'atterrir là où on veut atterrir. Donc je tourne un peu autour du pot, mais parce que tout simplement, moi je ne suis pas à la table de négociation, donc je ne sais pas précisément ce qu'il reste à décider, mais voilà, il y a des décisions politiques à prendre de chaque côté pour faire des concessions et atterrir sur la solution.
Oui, et alors bon, là on s'écarte pleinement hein, de notre sujet, mais j'en profite car ce n'est pas tous les jours qu'on peut échanger avec son eurodéputé. Vous êtes membre de l'intergroupe LGBTI du Parlement européen. Alors pour les néophytes, rapidement, hein, LGBTI, cela signifie lesbienne, gay, bisexuel, transgenre et intersexe. Et vous vous êtes prononcé plusieurs fois hein, à l'encontre des politiques menées ici ou là dans l'Union. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, en fait, notamment de ce chantage au veto ou au non-vote vis-à-vis notamment du respect de l'état de droit dans l'Union, puisqu'on sait que la Commission européenne, par exemple, tente d'y répondre.
Oui, bah, la Commission européenne et puis surtout le Parlement, puisque la semaine dernière et la semaine d'avant, nous avons arraché un accord au Conseil sur nos positions sur ces questions d'état de droit, en mettant clairement des dispositions qui permettent de suspendre les paiements du plan de relance et du budget pluriannuel européen pour les États qui ne respectent pas les valeurs fondamentales de l'Union européenne et les principes de l'état de droit. Avec d'ailleurs une modification de la gouvernance, puisque jusqu'à présent, quand la Commission européenne voulait créer une procédure sur ces sujets-là contre un État, il fallait avoir l'unanimité des autres. Mais comme, en gros, la Pologne et la Hongrie se couvraient l'une l'autre, bah ça n'avançait jamais. Et là, la proposition qui était faite et qui avait été acceptée en négociation entre les institutions, c'était de dire, bah non, maintenant, la Commission peut entamer des procédures, mais c'est seulement s'il y a une majorité qualifiée au Conseil que les procédures sont arrêtées. Et donc là, la Pologne et la Hongrie qui n'arrêtent pas de dire que l'état de droit, ce n'est pas pour eux, enfin qu'ils veulent faire vivre une forme de démocratie illibérale dans une forme de néoconservatisme assez fort dans ces pays-là. Et ils sont donc dans cette position de dire on fait du chantage. Donc effectivement, on est dans un moment un peu bloqué, puisque cet accord, je vous disais, qui a été négocié la semaine dernière et puis la semaine d'avant, il faut qu'il soit maintenant ratifié par l'ensemble des États, et c'est vrai que c'est l'unanimité, puisque c'est une question budgétaire. Sachant que, de l'autre côté, si ça n'y figure pas, le Parlement a dit qu'il voterait contre, puisque le Parlement peut aussi mettre un veto sur le budget. On ne peut pas le négocier, mais on peut mettre un veto. Donc aujourd'hui, c'est bras de fer contre bras de fer. Je me pose simplement une question, c'est que la deuxième vague est en train d'arriver et elle touche les pays de l'Est beaucoup plus fortement, que la première vague. Et donc, le plan de relance qui est sur la table, il commence à être insuffisant. Enfin, il est insuffisant et ces pays-là vont avoir besoin d'une aide supplémentaire. Donc, il y a peut-être une espèce d'effet de négociation sur un sujet qui est différent, mais pour dire, bah voilà, on bloque le premier plan de relance tant que vous n'avez pas filé de l'argent pour faire le deuxième plan de relance. Donc, c'est une espèce de jeu tel que le Conseil, c'est-à-dire l'institution des États membres, connaît en permanence. C'est comme ça que les Britanniques avaient eu un rabais il y a quelques années, le fameux rabais britannique, et c'est comme ça que de nombreux pays continuent d'ailleurs à avoir des rabais. Donc voilà un peu où on en est. Les choses se tendent singulièrement à l'approche de la fin de l'année, mais il va falloir quand même qu'on débloque, puisque les fonds sont attendus et on en a besoin.
Bien, merci beaucoup, c'était très instructif.
Et merci à l'association Braise Europe Finistère qu'on retrouve une fois par mois dans l'EM. La prochaine fois, ce sera le 5 janvier. N'hésitez pas à réécouter cet entretien sur le site internet de Radio Évasion.